Focus. Une immersion dans l'univers de la création.
Bonjour amis auditeurs, nous recevons pour ce nouveau focus Nadège Perrot, bonjour.
Bonjour Gilles.
Nadège, vous êtes la bergère des étoiles. On se pose toujours la question, pourquoi la bergère, pourquoi les étoiles ?
Eh bien, parce que j'ai grandi dans les montagnes, que c'est mon environnement et que je voulais travailler dans les montagnes. Et j'ai voulu associer l'idée du pastoralisme avec les étoiles pour donner une idée vraiment de mon activité que je souhaite développer dans les Alpes. Donc la bergère qui garde non pas des moutons mais des étoiles et qui vous emmène à la rencontre de ce troupeau. Allez vous présenter toutes ces légendes qui tournent autour du troupeau des étoiles.
En formation, tu as fait un master des sciences et de la Terre, si je me trompe pas.
Sciences de la Terre et de l'univers à Grenoble, oui.
Ouais. Et que tu es ingénieur hydrogéologique?
Exactement, voilà. Ouais. J'ai travaillé 4 ans en hydrogéologie dans un bureau d'études qui n'existe plus maintenant à Châteauroux-les-Alpes, qui s'appelait Tétis Hydro. Et puis, par la suite, je suis partie en voyage parce que ça me correspondait peut-être pas trop. Le boulot d'ingénieur, j'ai quand même réitéré 1 an en Nouvelle-Calédonie pour le gouvernement. Et c'était beaucoup plus intéressant à mon goût, mais ça n'a pas suffi, ça ne me comblait toujours pas. Et c'est en rentrant en France que je me suis dit qu'il fallait que je sois dans l'animation, que c'était ça qui me faisait un peu vibrer en fait. Donc j'ai fait un peu d'animation à Puy-Saint-Vincent, quelques années. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai envie d'ajouter quand même une petite note scientifique à tout ça, qui est quand même la science, les sciences sont quand même ma passion.
Et oui, c'est ta base.
C'est ma base, ouais. Donc j'avais envie de transmettre ça. Et en le mêlant à l'animation, mon activité maintenant me permet d'assouvir en même temps cette envie de transmettre, de vulgarisation et en même temps de toujours apprendre pour être toujours à l'heure au niveau du savoir autour de l'astronomie.
Et tu as aussi le côté pédagogique, c'est-à-dire tu transmets la plupart du temps, enfin souvent avec des enfants.
Souvent avec des enfants, mais beaucoup avec des adultes également. Hein. Il y a beaucoup d'activités qui s'adressent aux adultes et mes discours ne sont pas toujours destinés aux enfants.
Mais tu cherches l'enfant qui est dans l'adulte.
Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça.
Tu cherches à le retrouver.
Exactement, ouais, c'est ça. Avec l'astronomie, c'est ça qui est magique, c'est qu'on parle. Et on parle à beaucoup de gens. Tout le monde est curieux des étoiles. Hein. Et c'est vrai que ça rallume la flamme en chacun de la curiosité. Mais au fait, c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Comment ça fonctionne? Je les vois tous les jours, ces étoiles. Enfin, toutes les nuits, ces étoiles. Mais en fait, je ne sais pas bien comment ça fonctionne. Et c'est là où je vais toucher la petite étincelle. Et c'est vrai qu'on se laisse bercer. Moi, quand on me racontait des histoires avant que je me mette vraiment en passion pour l'astronomie, quand on me racontait toutes ces histoires, j'étais là, oh, encore, raconte-moi encore. J'ai pas tout compris, là. Et c'est ça que je veux rallumer. Et ça marche souvent.
Et ce qui est formidable, c'est que tu as réussi à avoir une astromobile et à fabriquer carrément un planétarium gonflable.
C'est la magie de la chose aussi, c'est que donc ce travail est très itinérant. Hein, je vais me déplacer à différents endroits pour donner ces prestations. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, ça servait pas à grand chose d'avoir une maison fixe et un travail qui finalement ne me permettait pas de vivre dans ma maison fixe. Et en même temps, moi, j'avais envie d'avoir un énorme jardin. Donc, j'ai décidé de diminuer mes besoins, de mettre toutes mes affaires dans un camion, dans mon astromobile, de diminuer la taille de mon matériel également. Et le planétarium, qui est quand même une demi-sphère de 8 mètres de large, qui fait 3 mètres de haut, ben c'est gonflable. Du coup, dégonflé, ça peut rentrer dans l'astromobile et tout le matériel peut rentrer et avec en plus mes petites affaires de quotidien. Donc maintenant, c'est la vie au grand air et sous les étoiles tout le temps.
Donc on comprend que tu projettes les étoiles sur la voûte de ton planétarium gonflable.
C'est ça. En fait, donc c'est une demi-sphère dans laquelle je peux faire rentrer 25 personnes environ. Et c'est toujours plus grand à l'intérieur que l'extérieur. On a toujours l'impression que c'est « Oh, mais en fait, c'est vachement grand de l'intérieur. » C'est comme le sac de Mary Poppins. En fait, on fait rentrer plein de choses dedans. Et à l'intérieur, j'ai un système de projection qui fait maison, mais avec l'aide de beaucoup de passionnés qui font comme moi. Et on va projeter justement le ciel étoilé sur la voûte intérieure du planétarium. Du coup, je vais pouvoir projeter le ciel étoilé de la soirée concernée, hein, la soirée de même. Mais je peux également me balader dans le temps, car la position des étoiles, en fait, est calculée. Donc, c'est pas en temps réel, si vous voulez. C'est vraiment calculé. Donc, je peux revenir 1000 ans en arrière. Je peux aller 2 ans en avant. Je peux faire une vision depuis le pôle Nord, depuis Chicago, etc.
Ouais, ça c'est génial, ouais.
Tout ça sans la pollution nocturne.
Oui, donc c'est retour vers le futur.
C'est ça. Exactement. C'est une machine à voyager dans le temps et dans l'espace. Et ça permet de comprendre énormément de choses. Parce qu'on a toujours cette vision depuis la Terre, depuis où on est. Mais une fois qu'on prend de la hauteur, qu'on prend un autre point de vue, on comprend beaucoup plus de choses.
Tu t'adresses pour ton animation à des structures comme les offices de tourisme, les écoles, et évidemment les particuliers. Tu fais aussi des soirées d'observation au télescope.
Oui, alors il y a aussi donc hors planétarium qui peut se faire journée ou de nuit. On a aussi le télescope. Donc j'ai un joli télescope qui est pas tout jeune, mais qui marche et surtout qui est très performant et qui fait une optique qui ne se fait plus maintenant et qui nous permet de voir les anneaux de Saturne, c'est-à-dire cette jolie planète avec ses petits anneaux autour. Et quand on arrive à voir les anneaux de Saturne dans un télescope, et là, on se rend compte, ah mais en fait, c'est vrai. Tout ce qu'on m'a dit, c'est vrai sur ces anneaux et c'est magique de voir cette petite boule avec les rayons autour, c'est génial. Après, on peut voir également des pouponnières d'étoiles, c'est des endroits où vont naître les étoiles, des étoiles mortes. On peut voir les satellites de Jupiter avec les traits sur la planète de Jupiter. Enfin, y a plein de choses magiques à voir dans un télescope et le fait de le voir en vrai, ça change énormément que les photos qu'on peut voir dans les magazines ou sous le planétarium. Il y a toujours un côté écran qui va mettre une distance, alors qu'avec le télescope, on a vraiment cette proximité avec l'astre qui est là-haut.
On peut voir au niveau de Saturne, on peut voir plus loin encore ?
Saturne est relativement près, donc on peut voir vraiment ce qu'on appelle le ciel profond, c'est-à-dire après les planètes, on a toutes les autres étoiles de notre galaxie, et là on va aller voir donc des pouponnières d'étoiles, des étoiles mortes, des étoiles doubles, c'est-à-dire deux étoiles qui vont se tourner autour, mais il y a aussi un instrument génial qu'on utilise lors de ces soirées télescopes, et chacun arrive avec son instrument, c'est nos yeux. Nos yeux peuvent voir énormément de choses à partir du moment où on sait comment regarder, où regarder. C'est comme lire un livre, en fait. À partir du moment où on commence à connaître les constellations, on arrive à lire le ciel, et là, il y a des histoires qui vont s'ouvrir. On va reconnaître Cassiopée, on va pouvoir comprendre l'histoire de Cassiopée. Ah, mais c'est pour ça que l'autre constellation de Céphée qui est juste à côté, parce qu'il y a l'histoire de Cassiopée. Et là, je raconte toute l'histoire de la mythologie, et là, on rentre dans un voyage dans le temps. Comment est-ce qu'on interprétait ces étoiles avant la science actuelle, avec la mythologie, c'est comme ça qu'on expliquait la position de ces étoiles.
Oui, donc on peut retrouver le chariot.
Le chariot, oui, c'est ça. Oui. Et puis on va partir de là, de la grande ourse, que tout le monde sait reconnaître. Et à partir de là, je vais donner les trucs pour pouvoir avancer petit à petit de constellation en constellation et finalement voir toutes les constellations du ciel.
Et est-ce qu'on peut retrouver son signe de naissance, les signes du zodiaque ?
Les signes astrologiques, oui, tout à fait. Ils font partie de... On a 88 constellations retenues officiellement en Europe et parmi toutes ces constellations, il y a les constellations astrologiques, c'est-à-dire celles qui sont traversées par le Soleil. Le Soleil passe dans le ciel à un certain endroit et à chaque fois qu'il va traverser une constellation, on dit que c'est une constellation astrologique. Et bien sûr, on va pouvoir retrouver sa constellation astrologique avec... Je raconte toujours un petit peu quand même cette histoire que les signes astrologiques, ça correspond pas vraiment aux signes que vous croyez.
Oui, ils sont décalés. Ouais.
Voilà, c'est décalé. Ouais.
Mais tu nous confirmes qu'il y a bien des constellations qui correspondent à notre moment de naissance.
Exactement, il y en a. Mais en général, c'est pas celle qu'on croit.
Ouais, c'est pas celle qu'on...
Moi, je croyais que j'étais taureau et non, je suis bélier. Donc bon, après, chacun croit si est-ce que ça change sa vie ou pas.
Mais moi, je crois toujours que je suis taureau. Hein, donc je piaffe de temps en temps, je fume. On va faire une petite pause musicale. Tu nous as apporté un morceau qui s'appelle Peace and Tranquility to Earth de Roudoudou. Mais qu'est-ce que c'est que Roudoudou? Ça fait un peu gamin, ça.
Ça fait un peu gamin, ouais. Mais en fait, j'adore cette petite musique qui me rappelle vraiment un ciel d'été allongé dans l'herbe à regarder les étoiles. Et ça m'évoque à chaque fois ça, cette musique. Donc c'est pour ça que je voulais amener aujourd'hui.
Et en deuxième partie, on parlera plus précisément des ateliers que tu organises et de la façon dont ils se déroulent. Bonjour amis auditeurs, nous sommes toujours avec Nadège Perrot. On a vu que tu organisais des tonnes de choses pour apprendre à lire le ciel en définitive.
C'est ça, c'est un apprentissage de la lecture des étoiles.
Et aussi pour faire des balades dans le système solaire.
Oui, tout à fait. Alors pour ça, il faut aussi un petit peu de comprendre qui est derrière quoi, comment est-ce que tout ça est agencé et quoi de mieux que manipuler pour ça. Donc, il y a plein d'ateliers pour découvrir, justement, en apprendre un petit peu plus précisément sur chacun de ces astres. Donc, pour ça, je vais proposer des ateliers manuels qui vont s'adresser plus, on va dire, pour les enfants. Parce que malheureusement, les adultes, on a peut-être oublié un petit peu qu'on pouvait bricoler. Mais qui les adultes, quand ils sont là, en général, c'est les parents qui accompagnent les enfants. Et ben, ils sont super contents de pouvoir apprendre des choses qu'ils avaient oubliées.
Puis ils sont subjugués parce que leurs enfants sont en train d'apprendre.
Voilà.
Ils essayent de suivre,
ouais,
de se mettre au niveau.
C'est ça. Et souvent, les enfants en connaissent plus que les adultes. On l'a appris tous, mais on l'a oublié.
J'ai compris que tu fais des ateliers avec des maquettes du système solaire. Tu peux comprendre où sont les planètes ?
Dans mon matériel pédagogique, j'ai une maquette du système solaire où j'ai vraiment des planètes qui vont tourner autour du Soleil. Et ça nous permet pour une soirée donnée, je vais positionner les planètes et montrer, OK, vous voyez, ce soir, on va voir telle planète parce que la position des planètes est comme ça. Donc, c'est assez pédagogique, ça permet de bien comprendre. Mais ce qu'on va faire en atelier, ça va plus être... positionner les planètes dans l'ordre. On va pas pouvoir les positionner pour la soirée donnée. Et puis, ça voudrait rien dire, étant donné que ça va changer. Donne-moi après, ça sera complètement différent. Donc, on va plutôt faire un travail artistique à représenter la planète. On regarde les photos que j'amène. C'est des super photos réelles qui montrent l'aspect de chaque planète. Et ça va être l'occasion de discuter des spécificités de chaque planète. La température extrême, qui peut être à moins de 100 degrés. Des pressions extrêmes aussi. C'est vraiment des mondes très différents. Et ça montre aux participants qu'on a des mondes qui peuvent être complètement différents de ce qu'on voit sur la Terre.
Tu dois certainement le montrer dans tes ateliers. C'est la naissance d'une étoile.
On prend une grosse boule de gaz dans l'univers, on compresse cette boule de gaz, enfin cette poche de gaz plutôt, et en fait ça va augmenter la pression et la température, et quand on aura atteint plusieurs millions de degrés, c'est là que naissent des étoiles. C'est ce qu'on appelle une pouponnière d'étoiles. Et une soirée, je racontais ça lors d'une soirée de télescope, et il y a un petit garçon qui très sérieusement me dit « mais comment ça se fait que quand je pète, alors je ne pète pas des étoiles ?» Il était très sérieux.
Ouais.
Et sur le coup, j'étais un peu interloquée. Et puis en fait, oui, non, il n'a pas assez de gaz dans son corps, tout simplement. Mais on a des petites questions comme ça qui sont anodines et en fait, qui apportent un grand savoir.
Mais c'est la curiosité du nouvel Einstein, c'est peut-être ce petit.
Eh oui,
tu as expliqué qu'il fallait qu'il pète avec plus de condensation.
Plus fort, beaucoup plus fort.
Le pauvre, il doit être en train de s'entraîner. J'ai compris aussi que tu faisais des cadrans solaires. Ça, c'est une application toute bête, en définitive.
Ouais, et puis en plus, dans la région, on a beaucoup de cadrans solaires.
Ouais, énormément.
Donc, les enfants, souvent, en ont vu. Donc, oui, c'est rigolo d'apprendre à vraiment avoir l'heure avec le soleil. Donc, c'est des petits cadrans en bois qui sont à nu. Et ce que je vais demander aux participants, ça va être de tracer les heures, donc selon un certain calcul, et tracer les traits exactement aux bons endroits pour avoir l'ombre que va projeter le soleil sur notre cadran, que cette ombre nous donne l'heure. Mais on a également un travail artistique avec ça, parce que les cadrans solaires, comme on le voit ici, sont tous très décorés. Donc, il va falloir trouver une doctrine à écrire sur notre cadran solaire, le décorer. Donc, ça aussi, c'est très agréable. Ça nous fait un petit atelier et on peut repartir après avec son cadran solaire en bois pour la maison.
Ça, c'est génial. Les enfants adorent repartir avec quelque chose.
On repart toujours avec quelque chose lors d'un atelier, ouais. On a les montres célestes qui vont apprendre à lire l'heure, mais cette fois avec les étoiles. Parce que comme avec le soleil, on peut le faire également avec les étoiles. Alors, pas de projection d'ombre, hein, mais avec la position des étoiles, on va pouvoir connaître l'heure. Donc pareil, on repart avec sa montre céleste à la maison. À chaque atelier, on repart avec quelque chose.
Mais pour que cette montre l'étoile, elle doit être énorme, non ?
Oui,
c'est pas une dimension du poignet.
C'est pas vraiment une montre qu'on met au poignet.
C'est une montre en pendentif, un peu.
Ouais, c'est un gros pendentif.
Il y a une chose qui m'a aussi frappé, c'est les fusées à eau.
Alors c'est un truc qui rend fou les gamins. On met 20 gamins qui font des fusées à eau et ça, c'est la folie. C'est simplement un système de, on va fabriquer une petite fusée avec des bouteilles d'eau et on va mettre un petit peu d'eau dans ces fusées avec de l'air comprimé. Simplement, on va injecter de l'air avec une pompe à vélo. Et on va lâcher sur une base de lancement. On va lâcher d'un coup, on va ouvrir d'un coup, pardon, la bouteille qui va partir très très loin. Ça, c'est impressionnant comment ça part. Et donc en général, on fait ça dans un joli champ dégagé. Et ce qui est génial aussi, c'est que quand ça part, bah ça éclabousse tout le public.
Ouais.
Donc ça rajoute à l'euphorie du moment.
Ouais, je suis sûr qu'ils doivent adorer. Ouais, c'est extrêmement ludique, ça.
Ouais, extrêmement ludique, exactement.
Et on
ouais.
peut faire des combats de fusée à eau, en effet.
Bah, on fait souvent la course, ouais.
Tu as fabriqué des podcasts spécialement pour le musée d'Arles.
Oui, le musée antique de Arles m'a fait une commande sur des podcasts. Et en fait, ils veulent faire on a une exposition sur les étoiles pendant 3 mois au musée. Et pour cela, donc, on a toute une ambiance nocturne et nature avec, bien sûr, le planétarium qui sera là. Mais on a également en écoute, sous casque, des podcasts que j'ai enregistrés en studio où je vais raconter les légendes du ciel et je vais raconter également qu'est-ce que c'est qu'un trou noir, enfin, des choses un peu plus scientifiques. Qu'est-ce que c'est qu'une pouponnière d'étoiles, etc. Et voilà, tous ces podcasts donc sont à écouter au musée. Mais si on a envie quand même de rester dans notre belle région, on peut les écouter depuis le site internet du musée. Et je vous mettrai le lien prochainement sur mon site internet, La Bergère des Étoiles.
Oui, donc ton site internet, c'est labergeredesétoiles.com. Et c'est tout attaché, hein. Il n'y a pas de point, il n'y a rien.
Voilà, c'est ça. Sur le site, vous allez également avoir les prochaines dates publiques que vous pourrez réserver aux offices du tourisme et toutes les photos, tout plein d'informations sur les nombreuses activités que je peux proposer. Alors, ça peut être une soirée d'observation au télescope, ça peut être des ateliers. Si vous souhaitez accueillir le planétarium, c'est également possible. Ce qu'il faut, par contre, le planétarium se fait que en intérieur.
Ouais.
Du coup, il faut une salle suffisamment grande. Alors, pour les écoles, c'est facile. En général, on a un gymnase, des choses comme ça. Mais bon, il faut quand même une salle de 8 mètres de diamètre et 3 mètres de plafond. Voilà, c'est un peu la condition pour pouvoir accueillir le planétarium. Vous m'appelez et on voit le projet ensemble pour mettre ça en place, voir ce que vous attendez, ce que vous avez envie. Parce que c'est vraiment des séances, je vais m'adapter complètement à ce que vous recherchez, à votre niveau vos envies. Quoi.
Puis ce qui est bien, c'est que comme tu l'as dit au départ, tu as ton astromobile, donc tu peux te déplacer en dehors du département sans problème.
Exactement, alors je me déplace sur Gap, sur le Champsaur. J'ai également beaucoup de commandes autour de Grenoble, donc dans Belledonne, Chartreuse, Vercors, et autour de Briançon aussi. Et puis, je commence à descendre dans le sud. Donc vraiment, tout le champ, en général, je me restreins quand même aux Alpes, mais bon, je peux aller un petit peu plus loin.
Oui, tu veux pas t'éloigner trop des montagnes.
Ah non, jamais. Hein.
Tu finis par couvrir toute la région PACA, quoi.
Oui, voilà. En général, je fais plusieurs fois le tour des écrins pendant l'été, quoi.
Tu as parlé de Grenoble, tu vas faire quelque chose sur Belledonne.
Je monte sur Belledonne, où la station des Sept Lots offre de belles soirées astronomie. Alors, la station des Sept Lots, plus les Adrets, qui est le village en dessous. On a un très joli ciel là-bas. On était au sommet de la station. Il y avait un ciel qui était magnifique. Il y avait une batucada au sommet de la station. Il y avait des parapentistes qui étaient là à danser avec la batucada. Et à la fin, on a fait une soirée d'observation au télescope. C'était merveilleux.
On parle de parapentiste. J'ai eu l'occasion de faire du parapente au-dessus des Sept Lots en allant vers Albertville, en partant d'ici du Champsaur. Donc j'ai fait 5 heures de vol. Et c'est vrai que les Sept Lots sont à 1700 mètres, quelque chose comme ça, non ?
Oui, oui, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais,
ouais. Ouais. Et ils sont à côté d'un massif extraordinaire.
Ouais, ouais, ouais. Et malgré la présence de Grenoble à côté, on garde quand même un joli ciel sans pollution lumineuse. Et en effet, quand on a la vue en tant que parapentiste, faudrait pouvoir faire du parapente la nuit, en fait. Ça permettrait de baigner sous les étoiles et au-dessus des montagnes. Ça doit être assez magique.
Ouais. Ben, on s'entraîne. Je crois qu'avec ton copain, tu pourrais, lui ferait du parapente et toi, tu observerais avec le télescope. C'est possible.
Alors, on a le projet quand même on adore les cabanes dans les Alpes. Les Alpes, on a cette grande richesse d'avoir des cabanes gratuites et accessibles à tous. Et on aimerait faire un projet en parapente, car on est tous les deux volants en parapente, aller de cabane, en marchant et en volant, en transportant un petit télescope et faire des soirées d'observation dans la cabane. Donc c'est un projet qui est en cours qui devrait être mis en place d'ici quelques étés, on va dire.
D'accord. Mais tu vois, je croyais lancer une pierre dans la mare, mais en réalité, vous avez déjà ce projet.
Ah oui, oui, oui.
On arrive au terme de cette émission. Merci Nadège de nous avoir emmenés jusqu'aux étoiles et de nous avoir donné envie d'aller aussi loin.
Merci de m'avoir reçu, Gilles.
Focus. Une immersion dans l'univers de la création.